بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم والجهل. اللهم بصرنا بعيوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شيخ سور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc comme on a commencé, donc je préfère que les frères et sœurs, bon, sauf pour une raison, on va dire majeure, d'assister à tous les cours. C'est très important. Sauf pour ceux qui ne peuvent pas, parce que les cours, ils sont reliés. C'est-à-dire, c'est comme un maillon, et c'est comme une chaîne, comme le frère parlait de la chaîne de transmission. Si on rate une chaîne, ça sera un peu difficile de hein? Mais Inch'Allah, à chaque fois, j'essaie de faire des résumés, et s'il y a des interrogations, on est à votre disposition, Inch'Allah. Notre cours, comme vous le savez, on le répète, c'est un cours de tawhid, ilmul aqida. Et l'aqida, nous sommes au troisième cours. On a déjà fait deux cours d'introduction à la croyance musulmane. Donc, dans les premiers cours, on a essayé d'expliquer ça consiste à quoi la croyance musulmane. Ma huwa ilmul aqida, wa limadha ilmul aqida. Quel est l'intérêt du musulman vis-à-vis de cette science? On a dit que c'est une science à part entière comme toutes les autres sciences et que la science du tawhid existait, le tawhid existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en tant que science qui a ses règles et qui a ses bases, elle est venue après quand il y avait des sectes égarées qui sont venues. Donc les savants musulmans étaient dans l'obligation de faire des bases et des règles afin non seulement de protéger la croyance des musulmans parce qu'ils commencent à avoir des esprits un peu à gauche à droite, ils étaient un peu touchés par la philosophie grecque, ils étaient touchés par les mu'tazilites, les qadarites, etc. Donc les savants étaient obligés de faire des règles et des bases, comme ils l'ont déjà fait avec la science du hadith pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils l'ont fait avec usul al-fiqh. Donc tout ça, ce sont des sciences en tant que matière première qui a existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en tant que science, ce sont des sciences qui sont venues après, comme la science du qira'a. Qira'at al-Qur'an al-Karim, Qira'at warsh, Hafs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lisez le Coran avec Qira'at warsh, lisez le Coran avec Qira'at Hafs, bien que Hafs et warsh, ils sont venus après. Qu'est-ce qu'il a fait l'imam Warsh, l'imam Hafs? Ils ont fait des règles afin que la lecture soit préservée. Donc c'est la même chose pour toutes les autres sciences. Donc la science, elle est faite pour préserver un contenu qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sahbihi. Donc on a vu aussi, on a parlé de quelques terminologies qui sont très importantes, quelques termes que nous devons connaître et maîtriser afin de comprendre. Et on a parlé du rôle de la raison, al-aql. لأن القرآن الكريم الله عز وجل خاطبنا بماذا ميزان c'est-à-dire quelle est la différence qu'il y a entre nous et les animaux, c'est la raison, l'intellect, l'aql. Le Coran al-Karim, quand on lit le Coran du début jusqu'à la fin, Allah Azza wa Jal parle et s'adresse à la raison aux gens. Il dit « Oulil al-bab, afala ya'qiloun, afala yabsiroun ». Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets qui consistent à rappeler, à transmettre le rôle de la réflexion et de la raison, bien que le tawhid en lui-même consiste à traiter, c'est-à-dire, comme on a parlé la dernière fois, chaque science parle d'un contenu bien déterminé. Si le fiqh consiste à parler de ce que nous devons faire, de ce que nous devons « al-halal, al-haram, al-makro » ou le jaiz ou le mubah, comment nous devons faire la prière, comment nous devons faire siyam, comment nous devons faire zakat, comment nous devons répartir l'héritage, la science du hadith, quelles sont les règles à accepter, un hadith ou non, la science du tawhid consiste à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque science a son intérêt, sa valeur vis-à-vis de son contenu. C'est pour ça qu'on a dit la science du tawhid, c'est la mère des sciences. Pourquoi? Parce que ça traite d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'essence, de l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala et du monde de l'au-delà. Ce monde de l'au-delà, on ne peut pas y arriver à ces informations à partir de la raison. Donc la raison n'est là que pour confirmer. C'est-à-dire, c'est pas elle la source première, un naql. Nous, c'est le Coran et la sunna authentique rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les textes authentiques, c'est à partir de là que nous devons croire et la raison ne fait que confirmer. La raison qui est saine, d'accord, comme nous allons le voir. Et on a parlé de quelques termes. Al-wajib, al-jaiz, al-mustahil. Qu'est-ce que nous devons attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce qui est permis d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala? Aussi pour les prophètes, qu'est-ce qu'on a droit? Ma yajibu, an-nasfa bihi anbiya Allah azza wa jal, wa ma la yajouz, wa ma yajouz. Et donc, ce qui est autorisé à admettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a ce prophète à marcher? Il marche comme tout le monde, hein? Et il mange, il boit, qu'est-ce que c'est que ça? Wa bashar, il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout à l'heure. C'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. La kal bashar, Muhammadun jawharatun bayna al-hajar. Un diamant, c'est une pierre ou c'est pas une pierre? C'est une pierre, mais est-ce qu'elle est comme toutes les pierres? Ah, on va la chercher. Allez, c'est qu'elle est. Cette pierre, c'est pas comme toutes les pierres. Allez, c'est qu'elle est. Anna yuha ilay, parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est la révélation. Allez, c'est qu'elle est. Sans parler de ce que Allah Azza wa Jal lui a donné, on parlera inshallah un peu plus tard sur les prodiges. C'est ça, les prodiges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont tellement beaucoup, il y en a beaucoup, 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 le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'jizatuhu kathiratun ghurar. Minha kalamullahi mu'jizat al-bashar. La plus grande prodige, c'est la parole d'Allah azza wa jal, qui est un défi à l'époque où les Arabes, ils avaient le verbe, ils avaient la langue arabe, etc. Et ce Coran reste comme prodige, mu'jizat, à tous les temps. C'est-à-dire chaque temps, même aujourd'hui, comme nous allons le voir, les savants découvrent des choses que la science moderne trouve aujourd'hui. Hein, je vais vous proposer quelques ouvrages que vous pouvez consulter, Inch'Allah. Donc tout ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. En ce qui concerne aujourd'hui, nous allons rentrer dans le cœur du sujet. Nous allons commencer par parler de l'entité. Bon, j'ai trouvé traduction entité ou bien l'essence. Yani, that Allah Azza wa Jal. En ce qui concerne that Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous comprenez quand je dis l'essence, hein? Parce que moi, j'ai toujours peur de la traduction et je me méfie. Alors là, surtout les traductions du Coran, il faut faire très, 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 très attention. Parce que, pourquoi? Non seulement nous allons traduire à une langue qui n'est pas mère, le Coran, il a été révélé en langue arabe. Donc, il faut surtout faire attention à ne pas se focaliser sur la traduction linguistique, mais essayer de comprendre le contenu et traduire le sens. Et dire ce qu'est le sens. Parce que traduire... Déjà, si quelques écrivains, Marx et Engels, etc., etc., ils ne veulent pas qu'on traduise leurs écrits, ils disent non, lisez nos écrits en langue allemande, parce que quand vous traduisez, vous, les Français, vous faites ceci, cela. Alors que dire du Coran? Et Mohamed parlait tout à l'heure des anciens écrits, que ce soit de l'Ancien Testament ou de nouveau la Torah, etc. Ce sont des textes qui ont été traduits 4 ou 5 fois d'une langue à une autre. Alors que reste-t-il? Sans parler de la falsification, etc. Un mot, quand tu le traduis dans 4-5 langues, qu'est-ce qui reste de ce mot-là? Aujourd'hui, vous serez un petit peu patient parce que je vais vous lire un petit peu quelques textes. Je serai obligé de lire parce que je les ai trouvés très très bien traduits. Donc vous serez patient, ce n'est pas de mes habitudes. Je vais vous lire un petit peu, si on aura le temps bien sûr, parce que c'est tellement important ce qu'il a ramené Cheikh Hassan Ayoub, rahimahullah ta'ala. Mais avant cela, pour parler de l'entité d'Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit que aujourd'hui nous allons parler de... Je vais écrire en arabe. Maya Jibou. Je vais écrire en français, ne vous inquiétez pas. Haqqillahi ta'ala. Ce que nous devons attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ce que nous devons. Bon, on va dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Non. Ce que nous devons attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des attributs. Subhanallah, toi, tu es un être humain. Tu n'as pas, déjà qu'on déforme ton nom. Tu les appelles Hamid, on va te dire, je sais pas, on va le casser. Déjà, tu n'es pas content. Ensuite, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un, on va dire, qui est sage. On va dire, ah, celui-là, il est ceci, celui-là, il est tordu. Est-ce que tu aimes ça? Fama baluka billahi azza wa jal. Allah azza wa jal, min sifatihi al-kamal. Toute attribut de perfection qui nous ont été révélés, nous devons les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien comprendre cela, c'est très important pour ne pas nous faire dire ce qu'on ne dit pas. C'est très important. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms ne sont pas limités. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في عالم الغيب. Le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Nasa'i. Je t'implore par chaque nom que tu as porté, ou que tu as appris à l'un de tes serviteurs, ou bien que tu t'es préservé qu'à toi-même. Donc, les 99 noms qui nous ont été rapportés dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure, il y a deux versions du hadith. On a deux ou trois noms qui sont dans un hadith qui ne sont pas dans un autre. Il y a d'autres noms qui sont dans des hadiths qui ne sont pas très authentiques, mais qui sont pris en considération par quelques savants, d'autres noms. Mais en général, il y a les 99 noms qu'on connaît, et il y a d'autres noms qu'on nous, on ne connaît pas. Que Allah Azza wa Jal s'est attribué. La preuve, le hadith le dit. Et la même chose pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi. Personne ne peut avoir la connaissance suprême absolue des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Mais nous devons croire que toute attribution des perfections, nous devons l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, en détail, les savants, ils ont vu que dans le Coran et la Sunna authentique, il y a 13 attributs qui reviennent, on va dire, qui coiffe un petit peu tout le Coran, et que ces attributs-là, on les trouve partout dans le Coran. Les savants musulmans, ils ont dit que ces 13 attributs englobent la totalité des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc les autres attributs rentrent dans ces 13 attributs, et les noms aussi, je vais vous donner des exemples, chaque une dizaine, trentaine de noms, ils rentrent dans un grand titre d'un attribut. D'accord? Alors, Inch'Allah, cette question, elle est claire, hein? Donc je vais écrire ici, je ne sais pas si je vais écrire les 13 aujourd'hui ou bien à chaque fois on va écrire Ça va être long. Bon, on va se limiter à... Je vais vous les lire rapidement, parce qu'aujourd'hui, déjà, le premier attribut, Al-Wujud, l'existence d'Allah Azzawajal, je ne sais pas si on pourra terminer en une heure. Donc je ferai tout, Inch'Allah, pour être très bref. Et je vous conseille, Inch'Allah, d'acheter le livre et de le consulter. Et je vous proposerai aussi d'autres ouvrages. Donc les 13 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, c'est Al-Wujud, donc l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wujud, c'est l'attribut que nous allons étudier aujourd'hui. D'accord ? Ils sont classés ainsi par les savants musulmans. Le deuxième, c'est la pré-éternité, Al-Qidam. Pré-éternité, Al-Qidam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a précédé Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement. Il est le premier sans commencement. D'accord ? Il n'a pas de commencement. Nous, les êtres humains, chaque créature a là un commencement. Mais Allah Azza wa Jal, il n'a pas de commencement. Allez, ça cadre avec. Hein ? Il n'a pas de commencement, Allah Azza wa Jal. Comme il n'a pas de... Il n'a pas de fin. Pas dire tu vis 100 ans, 600 ans, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de fin. Sidna Nuh, il a vécu combien d'années ? Il a vécu 13 siècles et 50 ans. Sidna Nuh, il a vécu 13 siècles et 50 ans. 950 ans dans la da'wah. Dans la da'wah.
Il a vécu 1000 ans.
Il a vécu 1350 années. D'accord. Donc 950 ans, il a appelé. Il appelait les gens au tawhid. 950 ans.
Dans les 1300 ans, c'est ça ?
Voilà, dans les 1350 ans. On enlève 950 années qui était une période de la da'wah. Il appelait à Allah subhanahu wa ta'ala, appelait au tawhid. Et pendant les 13 siècles et 50 ans, il y avait 150 ou 200 personnes qui ont cru. Il n'a pas baissé les bras. L'homme yafshal n'a pas dit à ces gens, jusqu'à la fin, 1300 siècles, « Ala Rabbi, intadharhum yudhallu ibadak ». Ces gens-là, khlas, subhanallah, il a dit, « Intadharhum yudhallu illa fajran kafara ». Tu laisses, ils ne donneront que des kuffars et des égarés, subhanallah. 1350 années. Et un grand-père, quand il aura un petit enfant, il va lui dire, écoute mon fils, attention, il ne faut pas croire à ce vieillard. Mon grand-père, son grand-père lui a dit, il ne faut pas croire. Ils savent qu'il va... Son grand-père, c'est son grand-père qui lui a dit. Alors il dit à son fils, dis à ton petit-fils. Tu vois, parce qu'ils ne vivent pas très sec. Tellement ils croient à leur idolâtrie. C'est quelque chose que les gens, ils tiennent. D'accord. Le prophète, alayhi salatu salam, ils avaient, subhanallah, une patience incroyable.
Ah. Les noms là, que vous nous citez.
C'est les attributs.
Oui, les
attributs. Mmh. Non. Kif.
Les noms là, si, non ?
Bien sûr, Moujoudi.
Par rapport aux 99 attributs.
Ça, non, ça, c'est pas les noms. C'est pas les noms, c'est les attributs.
Donc, c'est
pas confondre le nom, on va le voir. On a dit que l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut trouver un ensemble de noms dedans. D'accord ?
Des attributs en arabe.
Sifat, Allah Azza wa Jal.
Non. Sifat. Ah, donc quand on cite.
Quand on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Hamid, Al-Sami', Al-Basir, ça c'est des noms. Ça c'est des noms. Asma Allah al-Husna, les noms divins. D'accord, les noms d'Allah. Il y a beaucoup d'ouvrages, l'imam al-Qurtubi qui a écrit un ouvrage célèbre, l'imam al-Ghazali. Ensuite, vous avez les attributs d'Allah Azza wa Jal, vous avez des groupes de noms. Par exemple, aujourd'hui, vous avez parlé de l'existence d'Allah Azza wa Jal, le nom Al-Haq, le nom Al-Zahir, le nom Al-Batin, Al-Nur, tout ça rentre dans l'existence d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? On va en voir. Donc, pour revenir, la pré-éternité, Al-Qidam. Troisièmement, la pérennité, avec deux N, la pérennité Al-Baqa. La pérennité, Al-Baqa. Oui, mon frère ?
Al-Qidam, c'est la pré-éternité ou c'est pas l'éternité quoi.
Non, 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 deux E, hein, la pré-éternité, la pré-éternité.
C'est pas l'éternité, c'est la pré.
Oui, éternel parce que ça a un sens que, c'est-à-dire celui qui va vivre. Mais pré-éternité, c'est avant.
D'accord.
Avant, il n'a pas de commencement. On va détailler, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Chaque attribut, nous allons le détailler.
La pérennité.
La pérennité.
La troisième, c'est le
baqa. La pérennité, c'est le baqa. D'accord ? Le baqa, c'est-à-dire il n'a pas de fin, Allah Azza wa Jal. Allez, ça kadalik. Ensuite, quatrièmement, l'autosuffisance. Qiyamuhu bin nafs. Al-qiyamuhu bin nafs. L'autosuffisance. Nous allons, Inch'Allah, rentrer en détail. Juste aujourd'hui, on va les citer. Mais je voudrais qu'on rentre, Inch'Allah, dans le vif du sujet. Hein ? L'autosuffisance. Al-qiyamuhu bin nafs. Al-qiyamuhu bin nafs. C'est-à-dire, personne ne peut être autosuffisant. Hatta al-malik. Multaj wa ihtaj. Allez, ça gagne avec. Moultaj. Où il y a même le roi, il en a besoin. Allez, ça gagne avec. Aidez-moi, faites-moi, ramenez-moi un médecin. Allez, ça gagne avec. Même si on ne lui donne pas à manger 2-3 jours, il crève. Tu ne peux pas boire, c'est déjà Ramadan. C'est un signe pour nous montrer à nous que vous êtes faibles, vous êtes des êtres humains. C'est l'un des symboles du Siyam pour nous dire vous êtes faibles. Sachez toujours que vous êtes des êtres humains. Ah, j'attends le Maghrib, alhamdoulilah. D'accord. Donc, cinquièmement, la non-ressemblance. La non-ressemblance à toute chose. Hein, la non-ressemblance à toute chose. Le mukhalafatu lil hawadith. La non-ressemblance à toute chose. Allah Azza wa Jalla ne ressemble à aucune chose.
De ce qu'il a créé.
De toute chose. Voilà. Parce qu'il n'y a pas autre chose que ce qu'il a créé. Yak. Il n'y a pas autre chose que ce qu'il a créé. Et nous allons revenir avec des détails sur tout ça. Tout ça, Inch'Allah. D'accord. Sixièmement, l'unicité. Al-Wahdaniya. L'unicité. L'unique. Il est l'unique. Al-Wahdaniya. قل هو الله احد اليس كذلك لم يقل قل هو الله واحد قال قل هو الله احد on va voir ça. Donc l'unicité, l'ouhdaniya. Septièmement, l'omniscience, al-ilm. L'omniscience, al-ilm. Allah Azza wa Jalla, parmi ses attributs, la science.
Sans son limite.
On va voir tout ça, inshallah, avec des détails. Huitièmement, la volonté, al-irada. La volonté. Hayyun, alimun, qadirun, muridun. Samia Basiron, Mayasha Yuridu. Neuvièmement, l'omnipotence, Al-Qudra. Quand on dit omnipotent, c'est-à-dire le Tout-Puissant, d'accord? Tous les noms dans le Coran, Al-Qahiru, Al-Qadiru, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbiru, Al-Aliyu, rentrent dans cet attribut. Tout ça, c'est des noms de puissance, de Al-Sakalali, d'accord? Dixièmement, la vie, Al-Hayat. La vie, Allah Azza wa Jalla Hayy. Le vivant. On n'adore pas un mort. Il est vivant. Mais pour les chrétiens, comme disait Cheikh Ahmed Didet, Jésus, donc le bon Dieu, a été crucifié. C'est vrai ou non? Ensuite, après avoir été crucifié, ils l'ont fait descendre, ils l'ont mis dans le tombeau, dans la tombe, d'après la version biblique, hein, les frères convertis me corrigeront. Mais eux, ils disent, il est resté 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Donc l'univers, il était sans Dieu. C'est Dieu qui est mort, il est enterré. Donc l'univers, comment il est retenu, cet univers? Il est resté 3 jours. Ensuite, quand ils ont ouvert, il n'y est pas. Il est reparti. D'après la version. Hein. Onzièmement, lui. Lui. As-sama. Le faire d'entendre. Mais ensuite, nous allons revenir. Hein. Allah Azza wa Jalla, a-t-il besoin d'oreilles pour entendre? Il n'a pas besoin d'oreilles pour entendre. Allez, ça qu'elle est. A-t-il besoin d'une langue pour parler? Il n'a besoin de rien. D'accord? Allah Azza wa Jalla n'a besoin de rien. C'est lui qui crée toute chose. Ne vous inquiétez pas. Nous allons détailler tout ça. Mais je vais juste suivre, Inch'Allah, doucement, doucement. Douzième, la vue, al-basar. Al-basar. Allah Azza wa Jal, il voit ou il ne voit pas? Il voit toute chose. Hein? Il n'a pas besoin d'œil pour voir. Allez, c'est kadhalik, il n'a pas besoin. Nous, on a besoin des yeux. Tu me fermes les yeux, je ne vois rien. Allez, c'est kadhalik. Naam. Treizièmement et dernièrement, la parole, al-kalam. Al-kalam, attention, qui n'est pas la voix. Il ne faut pas faire le mélange entre la parole et la voix. Là, on parle de la parole d'Allah. Kalamullah, qadim. Parce qu'une voix, tiens, comme on voit les films quand ils montent. Les films, les 10 commandements, ils te montrent le cercle. Oh, attention, toi, Abraham. Une voix, qu'est-ce que ça veut dire? Un haut-parleur à fond qui crie, tu ramènes entre haut-parleurs plus puissants. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Enfin, Allah Azza wa Jal, il a parlé à Sidna Moussa, pour revenir. Allah Azza wa Kallam Allah Moussa Tiklima ou là? Allah Azza wa Jalla parle à Sidna Moussa. Ah. Sayyidina Moussa, comment il a entendu? Les savants ont détaillé cette question parce que chaque prophète, Allah Azza wa Jal, lui donne, takrim lahu, il lui donne une chose qu'il ne donne pas aux autres prophètes. Illa anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné beaucoup de choses qu'il a donné aux autres prophètes. On va les voir, Inch'Allah. Hein?
Parce que c'est le dernier, il a profité à
l'Ambi. C'est le dernier, wa huwa Sayyid wa Imam al-Mursalin. Hein? C'est la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la meilleure des créatures. Attention, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures. Faire très attention. On ne joue pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais faut... Parce que l'amour du prophète, ce n'est pas des verbes. Hein. Si on ne sent rien dans notre cœur, c'est qu'on a un problème. Sallallahu alayhi wa sallam. Akthiru min as-salat ala rasulillah. Il faut faire beaucoup de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Man ahabba shay'an akthara min dhikrih. Quelqu'un qui aime. Excusez-moi, hein, il aime Zidane, toute sa journée il parle de Zidane. L'autre, il aime un journal, il parle. Mais celui qui aime le prophète, il passe son temps à parler du prophète. Akthiru min dhikrih. Ou bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes quelqu'un, tu parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte. Non. Donc on a dit, Sidna Moussa, il a entendu la parole d'Allah Azzawajal, une parole qui n'est pas venue d'un seul coin. Allah Azzawajal lui a fait entendre sa parole par tout son corps. Ce n'est pas par les oreilles, par tout son corps. On a des hadiths où la main, le jugement dernier, vient parler. Ah, tu as fait ceci, ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je rapporte ce que les mots faisent. Oui, j'ai compris que le frère, il veut rapprocher le sens. Mais nous, on préfère rapporter ce que les mots, ceux qui ont fait l'exégèse du Coran, ont dit. C'est-à-dire, parce que c'est une question de tawhid, je ne peux pas m'avancer sur... Bon, c'est vrai qu'on peut, que si quelqu'un nie, on peut lui donner regard. On peut, par résonance, par ceci, ça peut se transmettre. Puis ça peut se transmettre, pourquoi pas par autre chose. On peut dire ça. Mais nous, on va se limiter à ce qui a été rapporté, que Sidna Moussa, il a entendu la parole d'Allah Azzawajal, sans qu'elle soit dans un sens bien déterminé. Toujours encore qu'il a entendu. Allez, c'est kadhalik. Et il y a une divergence entre les savants. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu la parole d'Allah Azzawajal quand il a fait l'ascension ou non? Il y a une divergence entre les savants. Il n'y a pas un consensus là-dessus. Taïb. On a écrit les 13 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, al-wujud, na'am, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa. Nous, on démarre toujours de le Coran al-Karim. Ensuite, nous allons argumenter ça avec, on a dit, la raison. Parce que la raison, elle est là, et un musulman devrait confirmer, c'est pas comme les chrétiens, oui, c'est comme ça, ikhlas, on croit à cela. Nous, nous devons rapporter tous les versets et tous les hadiths qui traitent de la question et l'argumenter avec une argumentation, on va dire, de la raison. La raison qui est au-dessus de la logique. Attention, il faut confondre la raison et la logique. La logique, ce n'est qu'une partie de la raison, du réflexe de l'intellect. Al-aql, c'est l'intellect. Allah Azza wa Jal nous dit, Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate la vache, certes il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargée de précieuses denrées, en l'eau que Dieu précipite des nuées, que revérifie le sol desséché, dans les êtres pullulants sur terre, dans les mouvements programmés des vents et dans les nuages soumis entre ciel et terre, il y a dans tout cela des signes évidents pour ceux qui sachent en déceler le sens. Donc, j'ai pris ce verset. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets où Allah Azza wa Jal nous renvoie vers sa création afin de découvrir le Créateur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, « Qul huwa Allahu ahad » Allah Azza wa Jal parle de lui-même. Donc, il existe. « Inna fi khalqi samawati ukhti fi lil » C'est ça le verset. Allah Azza wa Jal, « Lillahi yasjudu man fi samawati » Donc, dans le Coran, on trouve beaucoup, 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 beaucoup de versets qui parlent d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut pas parler de lui s'il n'existe pas. Vous êtes d'accord? Donc je suis en train juste de ramener les textes du Coran qui parlent que Allah Azza wa Jal existe. Juste ça. J'ai dit pour les noms, donc vous avez An-Nur, hein? Allahu Nur as-samawati wal-ard, mathalu nurihi. Quelqu'un ne va pas nous dire Allah c'est la lumière ou c'est la lumière du jour. Non, non, c'est pas ça. C'est que toute chose qui est dans cet univers, dans ce monde-là, qui est dans le sens de la lumière, c'est-à-dire qui donne une ouverture vers un savoir, qui est un symbole de connaissance et de savoir, qui est un symbole de vérité, Allah Azza wa Jal est la source de cette chose. C'est lui qui a créé. Cette chose est un signe de son existence. C'est ça le sens de Allahu Nur as-samawati wal-ard. Bon, premièrement. En ce qui concerne Al-Haqq, il n'y a pas une vérité plus que Allah Azza wa Jal. C'est lui la vérité absolue. C'est lui qui est le repère de toute vérité. Al-Haqq. C'est lui la vérité absolue et c'est lui le juste qui nous montre la vérité parce que chacun peut prétendre avoir une vérité. C'est vrai ou non? Aujourd'hui, on a des philosophies, on a des courants, on a des mouvements, on a des politiques, on a etc., etc. Mais celle que Allah Azza wa Jal nous donne, c'est la vérité absolue. Et il nous le prouve à travers la réalité de les versets qui sont rapportés et à travers l'islam Jurriba. On a essayé le projet musulman et on a vu ce qu'il a donné comme résultat et on a essayé aussi les philosophies humaines et on a vu qu'est-ce qu'ils ont donné comme dégâts. C'est vrai ou non? Taïb. Al-Zahir wal-Batin. Al-Zahir. Comment on traduit Al-Zahir? Hein? L'apparent et le caché. Taïb. C'est comme ça qu'ils traduisent, le caché, le Batin. Ouais, extérieur, intérieur des fois, ouais. Donc pour tout ce qui est dit non, Al-Zahir, c'est-à-dire... Quand on revient aux grands spécialistes, comme on va le voir, je vais vous citer, il faut avoir de la patience un peu parce que je vais vous citer pas mal de textes, quand on revient aux grands spécialistes de toutes sciences confondues, ils vont vous dire, regardez les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont partout, là, 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 tout ça c'est des signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min dharratin fil wujud illa wa alayha ismun min asma'il ma'bud. Il n'y a pas un atome sur terre où il n'y a pas un nom dessus et un signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut le trouver. Afala yandhuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi kayfa sutihat wa ila al-jibal. Allah azza wa jalla ne voit-il pas, ne regarde-t-il pas, est-ce qu'ils observent pas? C'est-à-dire il nous renvoie à Ibrahim al-Khalil, comme on a vu la dernière fois. Il a renvoyé les gens de son époque, il leur a dit, vous vous adorez des statues, moi à votre place je vais adorer le soleil puisqu'il nous donne de la chaleur, regardez comment il fait tout noir, ensuite il y a le soleil qui vient, c'est merveilleux. Pourquoi nous, pour leur montrer que il faut chercher le Tout-Puissant, il est où? Et quand ils ont commencé à dire, ah oui, peut-être qu'il a raison. Hop, quand le soleil s'est couché, ah, il est faible. Vous voyez, il est parti. Ah, ils sont arrivés. Et maintenant, comment on va faire? C'est-à-dire, ils essayent de leur dire, vous avez la réflexion, imaginez, réfléchissez de ce que je vous dis. Ces statues ne vous apporteront rien. Il faut chercher le Tout-Puissant. Il est où? Il est où? Pas dans le sens, il est dans un endroit. Attention. Parce que l'endroit, c'est lui qui l'a créé. Non. Donc, quels sont les arguments, les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets. On ne va pas tous les ramener, j'ai ramené un seul verset. Mais vous allez, tout au long du Coran, vous allez trouver des versets qui parlent de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons revenir aux arguments de la raison. L'adillatul aqliya. Un athée ou bien un musulman qui veut connaître, ou bien un chrétien, n'importe qui, il lui faut des... Même en tant que nous musulmans, il lui faut des arguments de la raison. Si la raison, elle ne va pas en contradiction avec le Coran, donc on n'a pas peur. Quelle est la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne faut pas avoir peur des questions. Toute question, elle est bienvenue en islam. Il ne faut pas avoir peur. Sauf que, si on n'est pas capable, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. Si on ne connaît pas, on dit Allahu a'lam, on va chercher, on va demander aux gens qui connaissent. On dit Allahu a'lam, allamahu Allahu ma'lam ya'lam. Parce que la grande fitna d'aujourd'hui, c'est que tout le monde est mufti. Tout le monde connaît la religion. Tout le monde parle de religion. Si on leur donne un intégral pour trouver la solution, ah, j'ai pas fait de mathématiques. Je suis malade, j'ai mal ici, est-ce que tu me donnes un médicament? Ah, je suis pas médecin. Mais en islam, tout le monde en parle. Il y a djouz, haram, sunnah, bid'a, shirk. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention de ne pas parler. Sauf si on connaît, à sahaba, quand on leur posait la question, ils connaissaient la réponse, et renvoyaient celui qui a posé la question à notre sahabi qui est à côté. Ajra'ukum ala al-fatwa, ajra'ukum ala al-nar. Celui qui est proche de la fatwa, attention, il est plus proche du feu. Les sahaba, l'autre, il donne la question à celui qui est à côté. L'autre, il donne la question à celui qui... Ça revient au premier. Tous, ils ont peur de répondre. Et tous, ils connaissent et tous, ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, aujourd'hui, on ne maîtrise pas la langue arabe. On n'a pas leur foi. On n'a pas assisté à des chouyoukha des ulama. J'ai entendu un frère, une fois, il m'a dit. Tac, il te donne la réponse. Déjà, on a vu la dernière fois l'imam Abu Hanifa. Il avait combien de cheikhs? 4000 cheikhs. 4000 cheikhs. J'ai commencé à compter, subhanallah, peut-être dans ma vie je n'ai pas rencontré 4000 personnes. 4000 cheikhs. Abu Hanifa, le grand imam. 4000 cheikhs. Voilà des gens aujourd'hui, j'ai entendu des jeunes qui ne parlent même pas la langue arabe. C'est pas lourd si vous estimez. Alhamdulillah, on est très content de voir des jeunes faire la prière, venir à la mosquée. Mais il faut être modeste. C'est pas un jeune qui connaît même pas comment formuler une phrase. En arabe, il me dit Abu Hanifa, il est faible dans le hadith. Allahu Akbar, Abu Hanifa, il est faible dans le hadith. Toi, tu connais un hadith? Un. Tu connais? Un hadith avec chaîne de transmission? Un. Tu ne peux même pas le prononcer en arabe. Abu Hanifa qui a rencontré 6 des sahabas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a un musnad rapporté par 15 chaînes différentes. Donc, l'imam Al-Qari a fait un commentaire sur un musnad. Donc, il faut faire très attention. Quand on entend les monuments de l'islam, il faut avoir un grand, grand, grand respect. Regardez ici, en France ou en Europe, comment on respecte les savants. Leclerc, hein, c'est un grand guerrier qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Partout, il y a la rue Leclerc. Hein. Place Leclerc, De Gaulle, qui est un grand politicien. Partout, place De Gaulle. Mais nos savants, va chercher toi Abu Hanifa dans le pays musulman ou si tu trouves quelque chose. À la rigueur, un petit lycée Abu Hanifa ou bien une petite mosquée. Donc, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, premier argument, al-fitra. Al-fitra qui est, on a dit, la nature première ou bien la nature profonde. Hein? Donc nature première ou nature profonde. Qu'est-ce que ça veut dire la nature? Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha. Allah azza wa jalla nous dit, fitrat Allah, wa man ahsanu min Allah sibra. Kadhalik sibrat Allah. Fitrat Allah, la fitra d'Allah azza wa jalla, c'est un cachet qu'il a mis dans le cœur de chaque être humain. Fitrat Allah lati fatara an-nas 'alayha. Qu'est-ce que c'est que la fitra? La fitra, c'est-à-dire c'est quelque chose d'interne dans le fond du cœur de chacun de nous
Il connaît, il a ce sentiment, il a cette question qui revient à lui-même, même s'il n'est pas musulman, même s'il appartient à n'importe quel peuple ou bien tribu, il a un instant dans sa vie où il se pose des questions, il se dit, c'est pas possible, il y a quand même un créateur. Il a cette fitra qui revient à lui et qui le pousse à réfléchir. D'accord ? Qui le pousse à réfléchir. C'est ça la fitra. Ensuite, Allah Azza wa Jal a fait cette fitra. Elle est diversifiée. Ensuite, elle donne ce qu'on appelle l'instinct, le petit bébé qui va voir sa maman. Nous, à notre intérieur, par exemple, quelqu'un qui veut boire, c'est une soif. Tout ça, ça rentre dans la fitra. Quelqu'un qui a envie de manger, directement il va manger. Quelqu'un qui a froid, ça rentre dans la fitra. Tout cet instinct, tout ça, ça rentre dans la fitra. C'est des choses que Allah Azza wa Jal, il a créées en nous. Avoir peur, hein, un petit enfant, tu lui fais comme ça, il a peur. Pourquoi quand tu lui fais comme ça, il ne va pas répéter la même chose? Donc c'est quelque chose d'interne que Allah Azza wa Jal a créé en nous.
Et dans les animaux, il n'y a pas la fitra,
Justement, ça s'appelle l'instinct. Ça existe pour les animaux aussi. Oui, c'est pour les animaux aussi, tout ça. Mais la fitra, c'est pas l'instinct, c'est une partie de la fitra, d'accord? Cette fitra, elle a existé dans toute l'humanité. Chaque être humain, il a cette fitra dans son intérieur, mais c'est qu'elle revient en lui, ce questionnement interne qui lui est imposé, est-ce qu'il va dire non? Franchement, faux, moi. Même les communistes disent, oh, il n'y a pas de Dieu, machin. Dans son intérieur, il se pose, il sait très très bien. D'ailleurs, je vais vous raconter des choses. Un athée est venu voir l'imam Ja'far Sadiq. Imam Ja'far Sadiq, qui est un de la descendance de Ahl al-Bayt, alayhi salam. Donc, Imam Ja'far Sadiq, par exemple, c'est l'un des chouyours de l'imam Abu Hanifa. D'accord, c'est l'un des chouyours de l'imam Abu Hanifa. Et les grands imams, Ja'far Sadiq, Al-Hassan ibn Ali, Al-Hussein, tous les grands imams, les 12 que les chiites disent, ces grands imams, ce sont des sunnites. Ce n'est qu'après que les chiites disent, oh, ce sont des chiites, ils n'ont pas la croyance chiite, hein, ce sont des sunnites. Bon, les 11, en fait, le 12e n'existe même pas. Hassan al-Askar, il est le Mahdi, quel montavar, bon, il attend. Les 11 grands imams chiites, qu'on dit chiites, c'est des sunnites. C'est pas. D'accord. Non, c'est des sunnites.
C'est des musulmans,
sunnites, c'est pas des chiites, comme les chiites prétendent aujourd'hui, parce qu'ils ont une croyance un peu, on va dire, dérapée. Et même Ja'far Sadr, il y a un athée qui est venu le voir, il a dit, moi je ne crois pas à Allah, et je n'ai jamais eu ce pressentiment que Allah existe, etc. Il lui a dit, est-ce que tu as pris un jour le bateau? Il a dit, oui, un jour on a pris le bateau, il y avait vraiment des vagues immenses qui allaient dans tous les sens, etc. Ensuite, le même Ja'far Sadr lui a dit, quand il y avait toutes ces vagues immenses, tu avais peur ou non? Il lui a dit, oui, j'avais peur, mais je savais que le commandant du bateau savait comment diriger, à l'époque c'était des voiles, comment diriger le voile. Ah, il lui dit, alors tu tenais à ce commandant? Il lui a dit, oui, je tenais à lui, ma confiance était en lui. Il lui a dit, après? Il lui a dit, après, c'est que le bateau s'est cassé. Ah, c'est cassé. Il a dit, oui, c'est cassé. Ensuite, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, j'étais perdu, je regardais à gauche, à droite, en haut, en bas, j'ai trouvé personne, j'ai trouvé une planche. Je me suis raccroché à une planche. Il lui a dit, alors, tu n'as plus cette confiance dans le commandant. Il a dit, non, j'ai plus cette confiance, maintenant c'est la planche. Donc c'est la planche qui a remplacé le commandant. Et après, toute sa confiance allait sur une planche. Il lui a dit, cette planche, et après, il lui a dit, ensuite, je suis resté dans la mer un moment, une journée ou deux, je me suis dit, il n'y a que lui qui peut me sauver, cette planche ne peut pas durer. Il s'est dit, je vais m'accrocher à la planche, il y a un passage, il n'y a ni passage ni rien. Il a commencé à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il y a des pêcheurs qui sont passés, ils l'ont sauvé. Quand il est sauvé, il est revenu à son athéisme. Imam Ja'far Sadr lui a dit, tu avais le sentiment de ne penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, oui ou non, il faut dire la vérité. Il lui a dit oui. Il a dit, alors tu fais la shahada maintenant, arrête de dire n'importe quoi. Et il a fait la shahada, il est revenu à l'islam. Imam Abu Hanifa, il avait aussi une autre histoire qu'on va traiter, c'était avec des gens athées qui ne croient pas à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, même avec tout cet univers qui est créé d'une façon minutieuse, comme on va en parler, inshallah. Donc, nous avons beaucoup de textes de chercheurs, de scientifiques, de philosophes, de mathématiciens, d'astrophysiciens, etc., etc., qui ont parlé de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit que ce n'est pas possible, que cet univers n'est pas un créateur qui l'a créé. Je ne sais pas si je pourrais vous citer quelques-uns, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai, bon, par exemple, Dans une étude parue dans la revue Le Cosmos de l'année 1983, le professeur Moninia écrit concernant l'existence d'Allah, si nous supposons en raisonnant par l'absurde que l'univers a pris existence sur l'intervention d'un être capable d'agir, doué de volonté et libre de choisir, si nous supposons que les hasards répétés sont parvenus à faire un homme, est-il pensable que ces mêmes hasards créent un autre être lui ressemblant parfaitement dans sa forme apparente et différent de lui dans sa conformation interne, à savoir la femme? Et c'est dans le but de peupler la terre par les humains et d'en perpétuer l'espèce. Non. Il ajoute, est-ce que cela ne suffit-il pas pour prouver l'existence d'un créateur tout-puissant doué de volonté qui a créé les êtres sans modèle précédent et l'ont fait des espèces diverses à implanter dans chaque espèce, etc., etc. L'imam, un grand cheikh, Mohamed Faridoujdi, il a dit, moi je tire de cette conclusion de ce grand savant spécialiste qui n'est pas musulman, mais il a tellement parlé de l'existence d'Allah Azza wa Jalla, il a avancé un argument de la création de la femme. Et ce grand cheikh Imam Oujdi, il a dit, j'ai trouvé cette argumentation de ce savant. Allah Azza wa Jal, on en a parlé dans un autre verset, Sourate Ar-Rum, verset 21, où il dit, parmi ces signes, il a créé pour vous, issus de vous-même, des épouses auprès desquelles vous trouvez quiétude et calme, et il a établi entre vous des liens de tendresse et de compassion. Il y a là des indices certains pour qui sait y réfléchir. Donc, ça, c'est un argument avancé par ce grand spécialiste. Il a dit que la preuve que, lui, dit Dieu, nous on dit Allah Azza wa Jal, existe. Le problème de ces grands spécialistes, astronomes, physiciens, mathématiciens, c'est qu'il dit que Dieu existe, ensuite il ne continue pas. Il n'avance pas dans la recherche pour voir, mais quel Dieu? Il est le Tout-Puissant, etc. Mais quand eux, la plupart, c'est des chrétiens. Mais eux, si on leur donne les textes de la Bible, ils vont les refuser. D'ailleurs, Galilée, vous savez très bien que ce qui s'est passé quand tu leur as dit que la Terre tourne, etc., il n'y a pas que lui. Hein. Contrairement à nous, les astrophysiciens, les musulmans, c'est eux qui étaient à l'avant-garde. C'est eux qui guidaient la Oumma. Hein. Par exemple, Descartes, il a avancé des vérités extraordinaires aussi. Bon, je passe. Newton, j'ai un petit passage de Newton. Ne dites pas de l'existence du créateur, il est en effet impensable que ce soit la nécessité seule qui dirige l'univers. Car une nécessité aveugle et échappant à tout changement, on ne peut imaginer quelle soit à l'origine de ce monde avec toute sa diversité et l'harmonie de l'ordre qui le caractérise, etc., etc. Bon, j'ai beaucoup de textes, Inch'Allah, on va vous les donner, de Newton. Beaucoup de textes de Newton. Il y a des textes d'un grand anglais, William Herschel, fondateur de l'astronomie stellaire, entre autres. Le grand physicien français Ligné. Vous avez le professeur, hein, les maisons d'édition Flammarion, qui est mort en 1925. Il a un très très beau texte, je vais vous lire rapidement. L'athéisme est trop méprisable pour se réclamer de la science ou de la raison ou pour mériter le nom d'une quelconque idéologie. C'est lui qui dit, hein, le professeur Camille Flammarion. Il dit, il est trop insignifiant et trop petit pour avoir droit de citer. L'athéisme n'est qu'une illusion suggérée à des esprits prédisposés à recevoir les injonctions sournoises des démons. Le sentiment de la foi se confond dans le cœur de l'homme plus que tout autre sentiment. C'est ça la nature première, c'est ça le fétain. Non. Celui qui la renie n'en est pas moins sensible que tout autre. Bien au contraire, il se peut que son simulacre de refus et de négation soit une preuve parlante qu'il est l'homme le plus sensible à son influence, mais il a perdu la voie droite, pourtant bien claire, si bien que sa perplexité l'a jeté dans le labyrinthe inextricable des théories, qui ne sont en vérité que des couches superposées de ténèbres. La suite, pour en terminer, pour fuir la foi, il se réfugie dans la spéculation abstraite et les sophismes, c'est un sophisme PH, hein, pas soufisme, hein, attention, les sophismes qu'il aurait certainement jetés au rebut s'il les avait soumis au jugement de sa saine nature. Il aurait de même compris que ses véritables sentiments, ce que lui dicte son imagination, sont diamétralement opposés. Si un jour on nous demandait quel est l'homme qui se ment le plus à lui-même, nous dirons sans aucune hésitation, c'est l'athée. Ça, c'est Flammarion qui dit ça. Alors, pour vous dire, je suis passé par beaucoup de...
Il était croyant.
Non, tous, ils croyaient. Eux, ils croyaient. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas avancé. Ils n'ont pas avancé leur recherche. On a beaucoup de gens convertis qu'on connaît. Moi, je connais des gens, je connais une personne qui est convertie. Et quelqu'un qui est converti, on parlait, si vous vous rappelez, le premier cours. C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, chez l'imam Abu Hamid al-Ghazali, l'imam Jouwaini, l'imam Baqlani, ils ont dit... Il faut que la personne cherche qui est-ce qui a écrit ce monde-là. Si une personne qui n'est pas musulmane commence à chercher, il a commencé sa recherche. Pour l'imam al-Juwayni, le fait qu'il a commencé à chercher qui est-ce créé, il cherche où est la vérité, et il est mort. Pour l'imam al-Juwayni, même s'il n'a pas fait la shahada, c'est un musulman. Ah, subhanallah. C'est-à-dire que nos savants de l'époque d'avant, ils essayent de récupérer les gens, de dire « Ah, celui-là, il est croyant ». Il revient, ça, subhanallah, il a commencé sa recherche. Aujourd'hui, il fait la shahada, il fait la prière avec lui, il fait le hajj avec lui, kafir, mushrik. Tu vois, la différence entre nous et les savants de l'époque. D'accord. Ils avaient la rahma, ils avaient la clémence, ils avaient... Hein? Et subhanallah, ton frère, il fait la prière avec toi. Mubtada, mushrik. Hein? L'être humain, il est plein de défauts. Mais il voit le chameau, quand il marche, il dit, regarde l'autre chameau, il a une dose. Lui, il a deux doses, il ne les a pas vus. Il voit l'autre, il ne voit pas ça, il a deux doses. Donc, pour revenir à ces paroles de grands savants, donc pour nous, musulmans, quand commence sa quête de recherche, donc il est déjà... Je vous ai dit que je connais des gens qui sont allés en Inde, ils sont allés dans différentes religions pour chercher où est la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils cherchent quelqu'un, mais il faudrait qu'il soit sincère et qu'il y ait cette réflexion. Et il trouvera man sara ala al-haqq wasal. Donc pour revenir, il y a beaucoup de textes de savants, vous allez inchallah dans le résumé qu'on va vous donner, vous trouverez
n'a. Il n'y a pas des savants occidentaux, il n'y a pas des savants musulmans arabes.
Qui
parle de ces questions.
Non, il y en a beaucoup, mais nous pourquoi on a ramené des non musulmans? Parce que pour nous musulmans, il y a pas de problème. C'est-à-dire la divinité d'Allah Azza wa Jal, tout le monde on croit comme a dit la sœur, on est des musulmans, il n'y a aucun problème. Mais il y a des grands spécialistes. C'est-à-dire la vérité, quand elle sort de l'opposé, de l'autre, elle a plus de crédibilité. Si c'est des grands physiciens, des grands spécialistes qui sont reconnus par tout le monde, et sont reconnus par nous musulmans, on peut ramener la parole de l'imam Ibn Rushd, l'imam Razi, l'imam Al-Mas'oudi, on peut ramener des grands astrophysiciens musulmans, etc. Il y a plein d'arguments. Hein. Ibn Rushd, il a passé toute sa vie à argumenter à Gharbel. C'est-à-dire il a un peu pris ce qui est bien et a rejeté ce qui est faux de toute la philosophie d'Aristote et Thalès, etc. Mais nous, on a voulu un peu se focaliser sur ce qui a été dit par les gens qui ne sont pas musulmans. C'est une preuve, surtout pour les non-musulmans et à nous aussi. Puisque déjà, ce sont des gens qui sont reconnus, des grands spécialistes qui sont de renommée, c'est eux qui ont écrit les encyclopédies, c'est eux qui sont reconnus par les institutions internationales. Nous, on a donné des arguments, on a cité l'imam Ja'far Sadiq, on cite aussi l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, un groupe d'athées, ils sont venus le voir, ils ont dit, nous, on ne croit pas Allah Azza wa Jal, on ne croit pas que Allah Azza wa Jal, il a créé cet univers, il n'y a pas de Dieu. Bon, il leur a dit, demain, nous allons nous rencontrer, on va faire un débat. Ils ont dit, d'accord, demain, nous allons rencontrer. À quelle heure, ils ont donné une heure précise. Abu Hanifa, il est venu en retard. Ils ont dit, comment toi, le grand Abu Hanifa, tu es venu en retard? Je suis vraiment désolé, parce que quand j'allais traverser la rivière, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de petit bateau, ben, j'ai attendu jusqu'à ce que j'ai vu l'arbre, il s'est cassé en deux, tout seul, il a été vidé. Ensuite, il s'est mis par des petits bois. Ensuite, chaque planche est rentrée dans une autre. Ensuite, j'ai vu des clous. Ils sont venus juste à gauche. Ils sont venus, tac, 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 tac. Ils sont rentrés dans chaque planche. Moi, j'ai vu que c'était un bateau. Il s'est fait tout seul. Je me suis mis dans la petite barque. Elle a commencé à marcher tout seul. Et là, je suis venu vous voir. Ils lui ont dit, Abu Hanifa, tu es un grand savant, tu nous prends pour des fous, quoi. Un bateau s'est fait tout seul, et venu tout. Il leur a dit, vous n'avez pas cru qu'une petite barque se fait toute seule. Et vous avez cru à cet univers qui est créé d'une façon millimétrique. Le soleil, comment il est créé, la terre, comment il est créé. Vous-même, Fandor il est nafsika. Regardez vos yeux, comment ils sont créés. Regardez vos bouches, regardez vos dents, regardez votre estomac, regardez ce que vous mangez, regardez la créature, regardez la mer, regardez les poissons, regardez vos mains, regardez vos cheveux, regardez comment vous dormez. Il a commencé à leur citer sans arrêt jusqu'à ce qu'ils ont fait la shahada. C'est-à-dire parce qu'il y a des choses tellement on les voit tous les jours, ça devient comme des évidences. On les voit pas. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, wa huwa al-dhahir, wa huwa al-nur. Quand on revient au nom d'Allah Azza wa Jal, parce que Allah Azza wa Jal, dans cet univers, c'est plein de signes. Mais celui que Allah Azza wa Jal a donné le basira, il lui a donné le haq, un nour. Il peut voir ses signes. Bon, on peut passer devant une fleur. Moi, j'ai vu un grand saint musulman. Ben, moi, je suis passé par une fleur. Je l'ai vu, c'est une fleur. Mais lui, il est resté une heure à regarder la fleur. Il disait, subhanallah. Il voyait ce que je ne voyais pas. Il voyait Allah, subhanahu wa ta'ala, comment il a créé cette fleur. Quelle est cette odeur? Quelle est cette couleur? Moi, c'est une fleur, je passe. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui veut découvrir qu'est-ce que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les découvre dans ses attributs. Il les découvre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque atome, c'est pas chaque créature, chaque atome dans cet univers, il y a un signe dans cet atome-là, si on le voit. Regardez les spécialistes dans les laboratoires, qu'est-ce qu'ils font dans leurs recherches? Est-ce que c'est eux qui créent ou bien ils découvrent? Les spécialistes, ils découvrent la théorie, elle existait. La relativité ou bien l'atome, quand ils ont découvert l'atome, elle existe. C'est pas qu'eux, ils ont créé l'atome, elle existe l'atome. Donc tout cela, c'est des signes qu'Allah Azza wa Jal nous donne dans cet univers. Tout ça, c'est des signes. On a posé la question à un arabe, un bédouin arabe qui vit dans le Badia. Les gens qui ont plus de foi, ce sont ces gens-là. Ils vivent avec le Masma, avec l'ordre, il a le soleil, il n'a pas de métro, il a la foi, il a... On lui a dit, quelle est la preuve pour toi que Allah Azza wa Jal existe? قال البعرة تدل على البعير. Quand je vois les traces, c'est pas les traces, c'est les déchets. Il y a des déchets d'animal, c'est une preuve qu'il y a un animal qui est passé. Hein? Des déchets d'un chameau, c'est une preuve que le chameau est passé par là. Il y a des déchets qui sont là. C'est une preuve qu'il est passé. Lui, on dit oui. Je marche dans le désert, je vois des pas dans le désert, si tu prouves qu'il y a quelqu'un qui est passé ici, ils lui ont dit oui. Et quand je vois les cieux, c'est plein de galaxies. Lui, il regarde cet univers-là. Aussi, quand je vois des vagues, c'est une preuve qu'il y a la mer. Tout cela n'est pas une preuve qu'Allah Azza wa Jalla existe. C'est-à-dire que chaque chose, c'est un signe qui fait exister à autre chose. Et tout cela, d'où vient ? Ensuite, cet univers-là. يقول صاحب الجوهرة وجوده له دليل قاطع. وجوده الله عز وجل له دليل قاطع. Je vais traduire ça, inshallah. C'est un très 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 bon poésie de 300 et quelques vers qui résume toute la croyance musulmane, c'est en arabe littéraire. وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان. La plus grande preuve de l'existence d'Allah Azza wa Jal, c'est l'existence de sa créature. C'est l'existence de sa créature. Pourquoi? Toi-même es être humain. Est-ce que c'est toi qui t'es fait toi-même? Tu t'es créé la tête, tu t'es créé les mains, tu dis ah non, il me faut deux mains, allez hop, je vais faire deux mains, deux doigts, voilà. Non, tu es né, tu es comme ça. Allah Azza wa Jalla, il a fait en toi tout. Dawra damawiya, hein? Les yeux, les cheveux, le cœur, comment il bat, comment il avance l'oxygène, il absorbe. Quand on ouvre l'anatomie de l'être humain, on n'arrête pas de dire innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Les grands croyants normalement ce sont les grands scientifiques parce qu'ils voient comment Allah Azza wa Jalla a créé l'être humain, le petit monde. L'être humain c'est un petit monde. Quand on voit les yeux, juste l'œil, si on commence maintenant à faire une anatomie de l'œil, comment elle est faite à l'intérieur, comment la lumière elle rentre, comment elle se reflète dans le cerveau pour que l'image revienne, etc., etc., etc. Comment la bouche, comment on mange des choses, comment les vitamines se répartissent, comment le foie, le sucre ne rentre pas une grande dose, etc., etc. Donc il y a des choses, tout un univers, un monde, c'est un monde, vraiment, l'être humain c'est un monde. Ensuite quand on sort à l'extérieur, le monde extérieur, cet univers-là, on voit par exemple les étoiles. Hein, les étoiles ou bien les planètes, comment elles sont situées millimétriquement. Aucune ne peut dépasser ce que Allah Azza wa Jal wa kullu shay'in khalaqnahu bi miqdar. C'est-à-dire de façon millimétrique, chaque planète elle a son orbite, elle tourne, elle ne va pas ni à gauche ni à droite. Wa ka'annaha makhuliqat li tantadura bi diqqatin. Allah Azza wa Jal a fait que le soleil n'avance pas et ne recule pas, sauf ce que Allah Azza wa Jal lui a calculé et limité dans sa création. Pourquoi? Parce que s'il avance un petit peu vers la terre, nous brûlerons tous. Et s'il recule, nous allons tous geler. D'accord? Donc tout ça, c'est des preuves logiques que l'être humain, sauf s'il est, comme a dit Flammarion, je pense, il y a des ténèbres. C'est-à-dire le cœur, il est enveloppé. Je vais donner cet exemple. On rentre dans une librairie ou une bibliothèque, tu vois les livres de géographie, ils sont bien, hein, des géographes par là, mathématiques par là, sciences par là, littérature par là, les livres de hadith par là, les livres de Coran par là. C'est une preuve qu'il y avait une personne qui a rangé tout ça. Parce que les livres, on les a achetés dans un carton, ils sont là, hop, 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 les livres sont montés tout seuls. Les livres de mathématiques par là, les livres de géographie. Non, il faut qu'il y ait une personne qui les met en ordre. C'est vrai, l'ordre, c'est une preuve que quelqu'un qui a mis en ordre. Dans cet univers, tout le monde nous dit qu'il y a un ordre extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a pas une chose dans cet univers qui a été créée d'une façon... Regardez les poissons dans l'eau. Regardez comment l'œuf, le poussin qui est à l'intérieur, comment il vit, comment il sort. Regardez le bébé dans le ventre de sa mère. Hein? Tout cela, on nous dit non. L'univers, il a été créé tout seul. D'accord. L'univers, il a été créé tout seul. Maalish. Eux, ils commencent d'un gaz. Ah, il y avait un gaz. Il y avait un gaz. Attention. La question, le gaz, il vient d'où? Il y avait un gaz. Parce que la théorie du Big Bang, ça commence par un gaz. Un gaz, hop, d'accord. Même la théorie du Big Bang n'est pas rejetée par le Coran. Samawati wal ardi kanat ratqan fa fataqnahuma. Ar-ratq wal fatq. Elle est citée. Inch'Allah, il y a un livre très important de Nordin Kshrid. Vraiment, si vous pouvez l'acheter, si vous le trouvez, deux tomes. Les 1000 vérités scientifiques du Coran. 1000 vérités scientifiques du Coran, Nordin Kshrid. Les théories scientifiques, il les ramène. Aussi, si vous trouvez les ouvrages du Cheikh Zindani ou bien les conférences, sont extraordinaires.
Des savants parmi eux, quoi,
des éminents. Non. Non.
Ils ont cru en moment, c'est-à-dire que par rapport aux preuves apportées, ils ont cru. Mais sinon, À l'unicité, non. Je ne sais pas si c'est leur orgueil ou...
C'est l'orgueil, exactement. C'est l'orgueil, barakallahu fik. C'est par orgueil, regardez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les kuffars qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu des miracles. Abu Jahl, il a vu un miracle de ses propres yeux. Ils voyaient des miracles, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, écoute, d'accord, tu nous dis que tu es un prophète. Ils se sont dit entre eux, écoutez, ce monsieur, on lui a dit des petites choses, il les a fait. On va lui demander une chose qu'il ne pourra pas faire. Il ne pourra pas faire. Imaginez, tellement leur cœur, ils sont vraiment enveloppés, ils ont dit, on va lui demander une chose incroyable. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On dirait, tu vois la lune? On veut que tu nous divises la lune en deux. Allez. C'est-à-dire tellement, ils sont sûrs que tout ce qu'ils vont lui demander dans la terre, il leur a dit, vous allez croire. Ils vont dire, d'accord. Il a pris l'épée. Professeur Hassan, il a fait bismillah. Tac. Ils ont vu que la lune s'est divisée en deux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Chaque al-Qamar. C'était dans le Coran. Ils ont dit, non. Tu as ensorcelé nos yeux. Oui, exactement. Exactement. C'est prouvé même scientifiquement qu'il y a une grande fissure.
Un léger décalage dans la remise.
Tout à fait, qui est resté. Oui. Ils l'ont détecté, ils en ont parlé, etc. Donc, pour dire que, ensuite, le professeur Asselineau aura dit, d'accord, supposons que je vous ai ensorcelé. Mais moi, je n'ai pas ensorcelé les gens qui sont, les caravanes qui sont dans le désert, parce que eux, ils regardent leur chemin par la lune. Ils ont sûrement vu cela. Il y a beaucoup de caravanes, ils vont en parler. Il a dit, on va rentrer ces caravanes-là. Je ne suis pas au courant, moi, il y a des centaines de caravanes au Yémen, en Syrie, qui vont. Ils ont attendu pendant un mois que toutes les caravanes rentrent. Tous, ils ont dit ce jour-là, on a vu la lune s'est divisée en deux, tous. Mais malgré ça, ils ont vu de leurs propres yeux, ils ne croient pas. Abu Jahl, pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les kuffars de Quraysh, ils avaient un grand cercle devant la Kaaba, ils se réunissaient pour se moquer des gens, pour parler des problèmes de la Mecque, de la tribu de Quraysh, etc. Abu Jahl, qui est connu, hein, un grand kafir, tête des kuffars, c'est l'un des champions. Et lui, il devait de l'argent à un petit bédouin, un pauvre, qui n'avait pas de pouvoir, ni d'argent, ni quelqu'un qui avait une puissance, soit la situation sociale, etc. Il est venu voir ces gens-là et ils lui ont dit, écoute, pour se moquer de lui, tu vois ce Abu Jahl-là, il y a une seule personne qui peut te ramener ton argent. Ils ont dit, il faut que tu vois là, Mohamed, là, il habite là-bas, et il va te ramener ton argent, pour se moquer de lui. Oui, pas venu, il est allé frapper à la porte du professeur, tac, 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 mais pas encore musulman. Il a dit oui. Il a dit, tu t'appelles Mohamed? Il a dit oui. Il a dit, on m'a envoyé vers toi parce qu'il s'appelait avant Abu al-Hakam. C'est le professeur qui lui a donné le nom d'Abu Jahl. Le père de l'ignorance, tellement il était ignorant. Non, c'est l'ignorance en chair et en os. Il lui a dit, il y a Abu al-Hakam, il me doit de l'argent, mais il ne veut pas me le donner. On m'a dit que si tu viens, le professeur, il n'y a pas de problème, viens. Il est allé le voir. Il a frappé à la porte. L'autre, qui frappe à la porte? Le prophète m'a dit, Mohamed, l'autre, il a commencé à trembler. Quelqu'un qui a la conviction, Allah Azza wa Jalla, il est avec lui. T'as pas peur. Allah Azza wa Jalla, il est avec toi. Tu es dans la vérité. Tu fais pas de mal, tu n'es pas injuste vis-à-vis des autres. Tu es sincère, marche, ne t'inquiète pas. Allah Azza wa Jalla, ma'ak. Si on a cette foi, il ne faut pas avoir honte, ni avoir peur, ni rien. Je ne suis pas injuste, je ne fais pas de mal, etc. Je suis dans la légalité. Il a frappé à la porte. Abu Jahl, il a ouvert. Qu'est-ce que tu veux, hein, Mohamed? Tu donnes de l'argent à ce monsieur. Oui, rapidement. Il est allé rapidement chercher de l'argent, il lui a donné. Le monsieur, il n'a rien compris. Il a demandé c'est qui ce monsieur. Il a dit c'est Rasulullah, c'est un prophète. Il a fait la shahada. C'était leur cause, il s'est converti à l'islam. Ensuite, quand ils ont entendu le groupe là, les grands Quraishites, ils ont entendu parler, ils ont dit, on va voir Abu al-Hakam, Abu Jahl, on va voir. Pourquoi tu as donné l'argent? J'avais peur de Mohamed. Il leur a dit, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu un cobra grand sur sa tête. Il attendait, si je n'avais pas donné cet argent, il allait me piquer, il allait me manger la tête. Il l'a vu de ses propres yeux. Il a dit, j'ai vu un grand cobra sur sa tête, par-dessus la tête du prophète. Il l'a vu, mais il ne s'est pas converti. Donc, pour dire que cette foi, c'est la personne qui fait l'étincelle de son cœur, ou bien il ne la fait pas. Il l'a fait gérer. Voilà. Il fait bouger la fitra qui est en lui, ou bien il ne la fait pas bouger. C'est lui. C'est la personne qui prend la décision de faire allumer la mèche de la fitra ou bien la laisser endormir jusqu'à ce qu'il meure. Donc, le plus important, on l'a dit, le plus important, Inch'Allah, on l'a dit, sifat al-wujud. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il existe. Les preuves, elles sont tellement immenses. Malheureusement, aujourd'hui, les scientifiques, ils leur ont implanté dans leur subconscient qu'un grand chercheur, surtout dans les labos, il faut qu'il y ait une belle barbe comme ça, c'est quelqu'un d'athée. Il est scientifique, naturel. Voilà. C'est-à-dire, pour lui, c'est la nature. Ah, la nature a fait que... Regarde comment la nature... Même dans les reportages que vous voyez des animaux, des fleurs, des laboratoires, tout ça, il dit, la nature a fait de telle sorte. C'est quoi cette nature qu'il a fait? Et la nature qu'il l'a fait?
Il dit que dans un... Tandis que la force de la nature est une force invisible.
Bien. Très bien. Nous, quand ils nous disent que la force de la nature, elle est... on va discuter c'est quoi cette nature qui fait les choses. La nature a fait que. Mais c'est qui cette nature? On va la définir. C'est quoi ses caractéristiques? Donc ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas. Donc ils ont créé une sorte de dieu. Quand ils disent que c'est la nature, c'est un dieu. Ils l'ont appelé la nature. On va en parler sur cette nature. Voilà. Mais cette nature-là, elle est quoi? Elle est faite de quoi? C'est quoi sa puissance? C'est quoi ses qualités? Etc. La même chose quand nous, on parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle à d'autres croyances, on parle des attributs qu'il qualifie Allah azza wa jal. Quand les chrétiens, ils mettent un dieu qui est une statue, ou bien qu'il s'assoit, qu'il est malade, on l'a frappé, un dieu qui est traîné, tout ça, c'est des signes de faiblesse. Un dieu, par excellence, qui a créé cet univers, il n'a aucun signe de faiblesse. C'est pas possible. Et tout ça, c'est des attributs que nous allons voir, inshallah. Non.
Il parle, Dieu, il parle.
Non.
Vous voyez le livre saint,
oui.
Par contre, la nature invisible ne parle pas.
Elle ne fait rien, elle est incapable.
Elle ne laisse pas
elle, la nature, c'est une création. Oui. C'est un signe de l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. La nature, ou bien la création, c'est le plus grand signe. Nous, on a dit que chaque chose est un signe d'où elle vient. C'est-à-dire qui l'a fait. On ne peut pas trouver une table qui n'a pas été faite par un menuisier. C'est pas possible. On ne peut pas trouver une baguette qui n'a pas été faite par un boulanger. On ne peut pas trouver de la viande qui n'a pas été coupée par un boucher. On ne peut pas trouver une voiture qui n'a pas été faite par une usine. Et cet univers-là, qui est plus complexe que la voiture, que la baguette, etc. On croit qu'il est venu comme ça. Donc tout cela, c'est des signes. Hein? Et en vous-même, ne voyez-vous pas, ne réfléchissez-vous pas, ne pensez-vous pas. Donc, toute chose, quand on la regarde, il faut prendre l'habitude que chaque chose dans cet univers, quand on la voit, il faut se poser la question, comment elle est faite? Regardez les montagnes, regardez les fleurs, regardez l'eau. Une graine, tu la mets comme ça, tu lui donnes un peu de l'eau, elle devient un arbre puissant. Qui est-ce qui a fait d'elle? Hein? Subhanallah. Tout cela est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les livres, il y a mille et une vérités scientifiques, et même Zindani a donné plein d'arguments. Il y a des vérités scientifiques qui sont citées dans le Coran qu'on vient de découvrir, que Allah Azza wa Jal, quand il parle du bébé dans le ventre de sa mère, par exemple, qui a trois couches, le prophète Hassan qui vivait dans le désert, mais dans le Coran, c'est cité qu'il y avait dans les fonds des océans, il y a des vagues, c'est cité dans le Coran, on les a découvertes avec le commandant Cousteau. Maraj al-Bahraini al-Taqiyan, une mer qui est salée, une mer qui s'est découverte récemment, que l'univers, il s'agrandisse, hein. L'univers grandit. Donc il y a plein de théories scientifiques, nous n'allons pas beaucoup les détailler. Vous allez les trouver, Inch'Allah, soit chez l'imam Zindani, ou bien chez Nordic Shield, ou bien d'autres spécialistes musulmans que je n'ai pas cités. Donc aujourd'hui, on s'est limité seulement à parler sur un seul attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir Al-Wujud, sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prochaine fois, nous allons rentrer, Inch'Allah, dans les autres attributs. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.